le club de C'est pas du vent sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, soyez les bienvenus dans le club de C'est pas du vent avec les journalistes de RFI et d'autres médias. Nous faisons le tour de l'actualité environnementale internationale. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Juliette Keff. Bonjour Juliette.
Bonjour Anne-Cécile.
Présidente de Vert, le média en ligne qui annonce la couleur. Simon Rosé et Lucille Gimbert du service environnement et climat de RFI sont aussi avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Ah, quel choral. Et Amanda Moreau de la rédaction anglaise de RFI. Bonjour Amanda.
Hello.
Hello. Alors bonjour donc à toutes et à tous. Alors en une phrase, de quoi allez-vous nous parler, Juliette ?
Bien, moi je vais vous parler du boycott des produits américains.
Voilà, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ça marche ? Et pourquoi le faire ? On se demande. Simon Rosé.
Il paraît que c'est un des rares spectacles où on peut passer des heures à le regarder sans s'ennuyer. Les nuages, leur rôle dans le climat, l'importance qu'ils ont, c'est leur journée mondiale ce samedi. Donc on va les mettre en avant.
Voilà, on va s'allonger dans l'herbe. Lucille ?
Ça va être moins réjouissant. La quantité astronomique de déchets qu'a laissé à Mayotte le passage du cyclone Chido. C'était un peu plus de 3 mois.
Et justement, à propos de déchets, Amanda, de quoi allez-vous nous parler ?
Je vais parler des technofossiles du futur, c'est-à-dire de notre époque et les civilisations du futur. Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous ?
Voilà, qu'est-ce qu'ils vont trouver dans les roches, justement, avec nos déchets, notamment. Et avec le film hip-hop, nous irons en Haïti, où, comme partout, les pêcheurs constatent une baisse de la quantité de poissons. Et dans sa chronique Média, Anne-Sophie Novelle nous expliquera l'importance de faire la différence entre la météo et le climat. Vous avez le programme, c'est parti.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Alors nous commençons toujours cette émission par un petit tour de ce qui nous a surpris, étonné ou amusé dans l'actualité environnementale de ces derniers jours. Alors Juliette, c'est un livre qui vous a fait découvrir un métier.
Oui, le métier de bûcheron, Anne-Cécile. Alors c'est le premier roman de Mathias Bonneau qui s'appelle Bûcheron et qui est publié aux éditions du Seuil. Imaginez autour de vous des épicéas, des douglas, quelques châtaigniers ça et là et des houx. Eh bien nous sommes dans un coin du Massif Central en France, un coin où il pleut beaucoup. C'est là que Mathias Bonneau a grandi. Il est fils de paysan, il a fait des études d'architecture et voyagé un peu. Mais rien ne l'a plus attiré que la forêt. Alors hiver après hiver, quand la sève des arbres a rejoint les racines, il retourne au bois. Chaque jour, 15, 20, 30 arbres sont abattus. C'est un travail de titan pour un salaire de misère. Mais Mathias aime ça. Le contact brut avec les éléments, cette certitude vitale d'appartenir au lieu. Bref, c'est un métier difficile. Bien sûr, il y a des difficultés pour le corps, beaucoup de solitude, de la répétition et puis un risque certain d'accident. On peut perdre des doigts. Il y a des branches qui peuvent rester accrochées et d'ailleurs, on les appelle les faiseuses de veuves. Mmh. Un point de vue rare sur un métier méconnu et un chemin solitaire, ultra physique et dangereux où un homme se sent entièrement vivant.
Voilà, Bûcheron s'est publié aux éditions du Seuil. Simon.
Une belle étude de l'université de Miami qui a demandé 20 ans de travail tout de même sur le grand requin blanc sud-africain, animal totem emblématique du pays. Et autrefois abondant dans la baie de False au Cap, on ne l'a plus observé depuis 7 ans. En cause, les captures involontaires, notamment dans les filets de protection qu'on avait mis en place. Il y a également les orques qui ont profité de leur faiblesse pour se mettre à chasser ces requins. Récente prédation, et du coup, il n'y en a plus. Il n'a plus été observé depuis un peu plus de 7 ans dans cette baie. Et c'est un bel exemple de ce qu'on appelle l'effet cascade. Quand on retire le prédateur qui est au sommet de la chaîne alimentaire sur tout ce qu'il y a en dessous, là, en l'occurrence, il n'y a plus de requins pour les manger. Donc, il y a une recrudescence des otaries à fourrure, d'une autre espèce de requin, le requin à branchies, qui, eux, mangent énormément de petits poissons. Et on se retrouve avec des pêcheurs au chômage en bout de course. Et c'est une étude qui est assez jolie, voilà, qui est un bon exemple sur un sujet dont on ne parle pas vraiment, mais c'est tout se tient. Du prédateur apex, comme on dit, à tout l'ensemble de la chaîne alimentaire.
Mais nous en parlons souvent dans ces pas du vent, Simon. Je vous invite à écouter
En général, ça m'arrive.
Lucille,
Est-ce que vous savez ce qui peut remplir les estomacs de 18 millions de baleines ?
Je sais pas, mais je pense que c'est pas un truc très sympa.
Du plastique.
Voilà.
Alors, plus précisément, c'est un calcul qu'a fait l'ONG Oceana. Elle a calculé que d'ici 2030, si l'entreprise américaine Coca-Cola continue sur sa lancée avec ses projections de croissance et la pollution plastique qu'elle produit aujourd'hui, eh bien Coca-Cola sera responsable de plus de 600 000 tonnes de déchets plastiques rejetés chaque année dans les océans et les cours d'eau à travers le monde. Une nouvelle évidemment réjouissante. Et puis ça me fait penser à un chiffre qui m'avait marqué il y a quelques années, c'est que sur, il m'avait été donné par Philippe Grandcola qui travaille sur la biodiversité, qui m'avait dit que la masse, on a généré déjà plus de masse de plastique sur la surface de la Terre qu'il n'y a de masse de mammifères. Voilà, c'est pour donc... nous donner l'ampleur. Et les raisons d'arrêter, quand on peut, le plastique.
Alors, nous parlions et nous allons parler de boycott avec Juliette dans un instant. Ça peut donner une petite idée de boycott, là, quand même. Amanda, vous avez plongé près de la grande barrière de corail en Australie il y a un mois.
Oui, voilà, voilà. En fait, l'Australie, c'est chez moi. Et c'est avec stupeur que j'ai appris que, pour la première fois, les deux immenses barrières de corail australiennes blanchissent en même temps. Sur le côté est, il y a la grande barrière de corail, la plus connue. C'est la plus grande structure vivante de la planète. Et puis, sur le côté ouest, il y a le récif Ningaloo. Les deux sont séparés par des milliers de kilomètres. Ils sont aussi dans deux océans différents, un dans le Pacifique, l'autre dans l'océan Indien. Et comme vous le savez, c'est l'été austral. Les deux récifs subissent une chaleur marine record. Et cette semaine, les scientifiques ont confirmé que ces deux récifs sont en train de blanchir en même temps.
Alors, qu'est-ce qui rend ce blanchissement plus grave que les autres?
C'est l'intensité, c'est l'ampleur. À Ningaloo, en ce moment, jusqu'à 90% du corail peu profond est blanchi. Pendant ce temps, les grandes barrières blanchissent aussi sur une zone de 1000 km. C'est le sixième blanchissement dans 10 ans. Certains coraux n'ont pas eu le temps de se remettre du dernier blanchissement. En 2023, j'y étais aussi. Cette année, il y a aussi de fortes pluies. La pluie ramène de l'eau polluée vers la mer. Ça bloque la lumière du soleil. Ça fait pousser des algues. Et tout ça en moment où les coraux sont déjà très fragiles.
Alors moi, j'adore les mots. Est-ce que vous savez ce qu'est le pétrichor?
Oui. Non. Mais je ne vais pas casser votre effet.
Non, parce que vous avez imprimé mon texte, non, Simon, donc vous avez triché. Alors, c'est une odeur caractéristique que nous sentons après la pluie et qui nous fait du bien. Voilà. Alors, c'est un néologisme créé à partir du grec ancien qui signifie « sang de pierre ». Pourquoi ? Parce que donc, ce sont deux scientifiques australiens, hein, donc collègues à vous, Amanda, la chimiste Isabelle Joybert et le minéralogiste Roderick Thomas, qui en 1964 ont essayé de comprendre pourquoi la pluie avait une odeur, sachant que la pluie qui tombe n'en a pas. Et en fait, c'est un liquide huileux qui est sécrété par certaines plantes qui ruissellent de certaines roches pendant les périodes sèches et qui, mouillées par la pluie, je vous fais la version la plus simple, hein, exhalent une odeur agréable. Alors, pourquoi est-ce que nous aimons cette odeur? Eh bien, sans doute parce que, voilà, dans notre inconscient, nous avons conscience que la pluie est vitale pour l'humanité, qui dépend d'elle depuis la nuit des temps pour se nourrir et pour survivre. Voilà, donc, c'est ce pétrichor, vous savez, parfois
on a tous l'odeur en tête.
On a tous l'odeur. Et alors, ce n'est pas la même partout, puisque, évidemment, qu'en fonction des plantes qu'il y a là, à l'endroit où nous sommes, cette odeur change. C'était un petit cours de vocabulaire. Rentrons maintenant dans le vif des sujets.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Juliette Kiev, donc présidente de Vert, le média qui annonce la couleur, et vous nous parlez du mouvement mondial de boycott des produits américains.
Oui, alors à vous tous, quel est le point commun entre Google, Coca-Cola, Uber et Spotify?
J'attends. Américains, sans doute.
Américains, pas que. Bon, ce sont toutes des entreprises qui ont financé la cérémonie d'investiture du président américain Donald Trump le 20 janvier dernier. Voilà, c'est peut-être un détail pour vous, mais pas pour tout le monde. Alors, il faut savoir que lors de son premier mandat en 2017, il y avait beaucoup d'entreprises qui s'étaient mises en retrait, justement, de la politique américaine de Donald Trump. Mais pour ce nouveau mandat-là, eh bien, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de géants, notamment de la tech, qui, au contraire, ont prêté allégeance à Donald Trump. On peut notamment penser par exemple à Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Mais depuis son élection à l'automne, justement, il a pas mal fait de faits d'armes, on peut dire. Par exemple, sortir de l'accord de Paris et ses objectifs de baisse de gaz à effet de serre, supprimer des millions de données scientifiques, licencier des milliers de fonctionnaires, par exemple à l'Agence américaine de protection de l'environnement, ou encore bloquer des milliards de dollars qui étaient destinés à l'aide environnementale ou à des ONG environnementale. Bref, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, la résistance s'organise. On assiste à un grand mouvement de boycott. En France, il y a quand même un Français sur trois, selon l'IFOP, qui boycotte aujourd'hui des produits qui viennent des États-Unis. Et ça concerne un paquet de boîtes.
Alors justement, quelles sont ces entreprises ?
Eh bien, la liste est longue. Hein. Si vous voulez boycotter, ça fait vraiment beaucoup de produits du quotidien. Dans la tech, on peut citer Google, Microsoft, Meta qui possède donc Facebook, Instagram, Amazon, Apple, OpenAI, donc qui est une entreprise d'intelligence artificielle qui édite notamment ChatGPT. Voilà, toutes ces entreprises-là, par exemple, elles ont donné plus $1 million à Donald Trump. Google a diffusé aussi la cérémonie en direct sur YouTube. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, est également propriétaire du Washington Post et il a vivement salué la victoire du président. Donc ça fait quand même pas mal de raisons de boycotter. On a aussi du côté de la tech Apple, par exemple. Son patron Tim Cook est connu pour être un proche du président. Il l'a rencontré plusieurs fois avant sa réélection, notamment pour créer des ponts entre son entreprise et l'administration du milliardaire. Je ne vais pas tous vous les citer, mais bien sûr, le plus connu, c'est évidemment Elon Musk.
Donc Tesla, Twitter.
Là, enfin, alors lui, c'est celui qui vraiment fait l'objet du boycott le plus important. On a des baisses de ventes de Tesla partout dans le monde, notamment en Europe. En France, il y a moins 45% de ventes de Tesla depuis le début de l'année par rapport à l'an passé, donc c'est absolument massif. On en a aussi, par exemple, moins 70% en Allemagne. Il y a d'autres constructeurs qui font l'objet de boycotts, Hyundai, Stellantis, Toyota, Ford General Motors, Uber, bref, les constructeurs automobiles roulent pour Trump.
Et puis, il y a aussi tout un tas de produits du quotidien qui sont concernés. Et d'ailleurs, ça va concerner peut-être un peu les baleines.
Un petit peu le plastique. Hein, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Tropico, Fusetta. Il y a énormément de marques, justement, qui ont là aussi contribué à la campagne de Donald Trump. On peut aussi citer Spotify. Voilà, vous savez, cette application qui nous permet d'écouter de la musique. Eh bien, Spotify a organisé un brunch de la victoire pour célébrer le pouvoir des podcasts au cours de l'élection. Ils ont invité notamment Joe Rogan, qui est un animateur d'une émission ultra conservatrice aux dérives complotistes. Super. On peut penser aussi à Airbnb, le site de location de logement. Et enfin, à des vendeurs de pesticides et de la chimie comme Syngenta et Bayer.
Alors, est-ce que toutes ces entreprises, Juliette, soutiennent pour autant l'extrême droite américaine ?
Alors, certaines, oui, bien sûr. Voilà, par pure idéologie, parce qu'elle partage un certain nombre de valeurs avec le président d'extrême droite américain. Mais il y en a aussi un certain nombre qui sont tout simplement opportunistes. C'est-à-dire que pour elle, bah voilà, c'est une question de business et de marché. Et alors, est-ce que boycotter, ça marche ? Ça, en fait, il est assez difficile de le savoir en amont. Il y a des cas où, effectivement, il y a des effets qui sont importants. Dans l'histoire, il y a quelques boycotts qui sont absolument fameux. D'ailleurs, les origines du boycott, elles remontent loin. La première occurrence, elle arrive en 1879, lorsqu'un intendant d'un riche propriétaire terrien qui est appelé Charles Boycott, il était connu, en gros, pour maltraiter des paysans et il a été boycotté donc par sa communauté pour le punir de ses agissements. Bon, il y a aussi un certain nombre d'exemples. Hein. Gandhi en Inde, Martin Luther King sur les luttes contre la ségrégation dans les transports publics américains. Donc ça peut avoir des conséquences importantes, mais l'idée c'est de boycotter tous les produits américains, ça va être très compliqué vu l'ampleur du nombre de produits qui sont dans notre quotidien. En revanche, ça a le mérite de mettre en lumière le sujet. On en parle sur RFI et ailleurs. Et bien sûr, de faire pression aussi sur un certain nombre de dirigeants politiques.
Voilà, donc chacun fera son petit bilan dans son coin. Pour moi, les décisions sont prises. En tout cas, c'est intéressant d'apprendre que boycott vient de Charles Boycott. Je ne savais pas du tout cette origine.
Apprendre en s'amusant. Hein.
Voilà, c'est ça. Alors, dans un instant, nous vous emmènerons en Haïti, où comme dans de nombreux endroits du monde, le poisson se fait rare. Mais d'abord, place à la musique sur RFI avec cette reprise de Magnolia Forever de Claude François par un japonais, Kenzo Saiki.
Samando.
Et oui, c'était le japonais Kenzo Saiki, très connu au Japon, et sa reprise du titre Magnolia Forever de Claude François. Et voici maintenant la chronique hip-hop pour Petites Ondes Participatives. Hip-hop, c'est un réseau de vidéastes amateurs qui recueillent des témoignages pour humaniser le débat. Et c'est une chronique de Caroline Filliette.
Aujourd'hui, direction Haïti et plus précisément à Bel-Ader, au centre-est du pays, où nous partons à la rencontre de Carlos Jean. Carlos est un jeune pêcheur, mais très expérimenté, car il a commencé son métier à l'âge de 10 ans. Il déplore aujourd'hui le manque de régulation autour de la pêche. Ce reportage hip-hop, intitulé « L'agonie de la pêche », a été réalisé par Gamaliel Laventure, et nous allons en écouter un extrait.
Moi, c'est Carlos. J'exerce le métier de pêcheur depuis que j'ai 10 ans. Quand j'avais 10 ans, je pêchais avec un outil appelé zen. C'est un piège à ver de terre. Et quand le poisson vient pour manger, on le sent et on remonte la ligne. Plus tard, j'ai pêché avec une nasse. C'est un piège fabriqué avec du bois de bambou qu'on laisse dans l'eau, avec du maïs pour attirer les poissons. Et maintenant, je travaille avec ce filet. Et avec ça, je peux subvenir aux besoins de mes deux enfants. Je peux gagner entre 4000 et 8000 gourdes par jour. Mais en fait, ça ne représente plus grand-chose à cause de l'inflation. Il faut dire aussi que la pêche se fait de manière incontrôlée. S'il y avait un ou deux pêcheurs, il n'y aurait pas de problème. Mais toute la population vient pêcher avec toutes sortes d'outils. Et les poissons sont de moins en moins nombreux. Tu vois ces petits poissons dans le filet ? Ils auraient pu devenir grands un jour. Mais je suis obligé de les pêcher. On n'a pas d'autres moyens pour survivre. Avant, il y avait des arbres sur les berges du fleuve qui protégeaient les poissons du soleil. Et leurs graines leur permettaient de se nourrir. Il y avait même des rizières à côté du fleuve. Mais tout ça, ça a disparu. En abattant les arbres, on tue les poissons. Et puis, le cycle de l'eau qui change aussi, ça détruit les poissons.
Bonjour Gamaliel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous présenter ce film. Comment avez-vous rencontré Carlos, ce jeune pêcheur, et qu'est-ce qui vous a intéressé dans son histoire ?
En Haïti, on n'a pas vraiment besoin d'aller chercher trop loin pour trouver des histoires, des endroits où la biodiversité a du mal à s'évoluer naturellement. Et j'ai rencontré Carlos par hasard, et ensuite on a parlé, et puis on a fait l'interview.
Malgré son jeune âge, Carlos a une grande expérience de la pêche et il connaît toutes les méthodes, hein, la traditionnelle pêche à la ligne, bien sûr, la pêche au filet, à la nasse. Mais les abus sont nombreux, notamment le fait que les poissons soient pêchés avant même d'avoir terminé leur croissance. Quelles sont les conséquences de ces abus ?
On l'a vu directement sur Carlos. Il nous a dit clairement qu'il a du mal à trouver des poissons qui arrivent à terme et qui peuvent combler ses besoins. Pratiquement tous les pêcheurs subissent exactement le même problème.
Alors, votre film a été réalisé en 2023. Savez-vous si les pouvoirs publics à Haïti sont conscients de la nécessité, de l'urgence de réguler la pêche et si des mesures ont été mises en place depuis la réalisation de votre film ?
Alors, il faut dire qu'on a un code qui régit la question de la pêche en Haïti. C'est le code François Duvalier de 1962. Alors, ce code-là est un peu désuet par rapport à la situation actuelle. Et le code ne parle vraiment pas trop de comment les pêcheurs peuvent pêcher en Haïti. Et ça participe à la destruction de la biodiversité haïtienne. À partir de mon film, rien n'a été encore fait. Sinon, le pouvoir public en Haïti continue à publier des politiques, mais des politiques sur papier, et rien de concret n'est fait.
Merci beaucoup, Gamaliel, pour votre éclairage.
Merci, c'était un plaisir.
Merci Caroline, merci à Gaëlle Flaugère qui anime la communauté hip-hop avec Max Ball de RFI, Planète Radio et les chercheurs de l'IRD. l'Institut de la recherche pour le développement. RFI émet en 17 langues et dans chaque langue, il y a un référent environnement. Nous leur donnons la parole dans C'est pas du vent.
RFI. Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde.
Es la migración más importante de insectos.
Barca mărsa ce ca sunt ceva.
C'est pas du vent.
Добрый день, вы слушаете подкасты Международного французского радио RFI.
Amanda Moreau de la rédaction anglaise de RFI voulait nous parler de fossiles. Alors on ne va pas parler d'os de dinosaures, hein, mais plutôt de la façon dont les paléontologues essaient de prédire ce que nous, les humains du 20e siècle, 21e même maintenant, allons laisser derrière nous.
Oui, exactement. Les scientifiques parlent de technofossiles. Ce sont les objets du quotidien qui pourraient rester sur Terre pendant des millions d'années. Les civilisations futures ne trouveront peut-être pas nos œuvres d'art, ni même nos bâtiments, mais elles trouveront sûrement du plastique, des os de poulet et des téléphones cassés. Imaginez ces objets enterrés dans la roche, attendant d'être découverts. J'ai parlé avec deux paléontologues britanniques de Leicester University pour savoir ce que ces technofossiles pourraient révéler. Ils viennent d'écrire un livre sur le sujet. Selon eux, le plastique sera l'un des signes les plus évidents que l'humanité a existé. Écoutez Sarah Gabbett.
Si une civilisation du futur creusait dans des roches vieilles d'un million d'années et tombait sur cette couche, c'est-à-dire l'époque de l'Anthropocène que nous sommes en train de créer, je pense que l'un des indices les plus clairs serait le plastique. On en trouve partout dans le monde. Il y a des déchets classiques, bouteilles d'eau, sacs plastiques, mais aussi les célèbres microplastiques. Comme ils sont transportés par l'air, on en retrouve absolument partout. On en a retrouvé dans la glace de l'Antarctique jusqu'au sommet de l'Everest.
Donc Amanda, c'est comme si nous étions en train de laisser une signature mondiale.
Oui, c'est le reflet de notre époque moderne. Alors que la plupart des fossiles naturels ont des formes courbes et organiques, pensez à la spirale d'un coquillage ou aux branches d'un corail, les technofossiles ont des angles droits et les formes géométriques. Prenez les téléphones, des milliards sont fabriqués, puis jetés. Mais dans un million d'années, leur fonction pourrait être impossible à deviner.
Si on pense à un téléphone portable, c'est un rectangle en plastique et ça, on pense que ça va se conserver. La face avant est en verre et au bout de quelques milliers d'années, le verre devient plus opaque. À l'intérieur, on trouve différents métaux, dont une concentration de lithium, c'est la batterie, et aussi plein d'autres métaux, des fils en cuivre. Mais pour comprendre à quoi servait un téléphone, dans un million d'années, ce ne sera pas évident. Et comme le verre sera opaque, ce sera encore plus difficile de deviner l'utilité de ces objets. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sauront qu'on en avait beaucoup et que c'était des objets importants.
Il n'y a pas que l'électronique ou les emballages hein, qui vont raconter notre histoire, Amanda.
Non, un des fossiles le plus étonnant de Future, comme je disais, sera les os de poulet. Chaque année, on abat environ 75 milliards de poulets. Beaucoup de leurs os finissent dans les décharges. Et savez-vous qu'il y a plus de poulets que n'importe quel oiseau dans le monde? Un chiffre intéressant. Mais les fossiles ne sont pas naturels. Ils sont le résultat de l'élevage industriel et donc ils ont été modifiés. Les poulets d'aujourd'hui grandissent tellement vite que le squelette ne suit pas. Les os montrent des signes de déformation et de stress et ces caractéristiques seraient difficiles à comprendre pour les scientifiques du futur. Et les décharges, ce sont de vraies usines à fossiles, sans le vouloir. Écoutez l'autre paléontologue, Jeanne Salavitz.
Les décharges sont des endroits où on jette, entre autres, des os de poulet en grande quantité. Elles offrent aussi des conditions idéales pour conserver ces eaux et plein d'autres choses sur le long terme. En général, on enterre ces déchets dans des trous tapissés de plastique et souvent ces déchets se déshydratent. Les os, voire même la chair, peuvent se momifier. Et comme c'est bien enfoui, ça favorise le début du processus de fossilisation. En fait, on est en train de fabriquer les fossiles du futur.
C'est assez effrayant cette histoire d'œuf de poulet. Alors nous sommes en train de figer notre mode de vie dans le temps finalement.
Oui, y compris les choses qu'on ne pense pas durables. Les pales d'éoliennes par exemple, elles sont immenses, parfois plus longues qu'une aile d'avion. Elles sont faites de matériaux très résistants, quasiment impossibles à recycler. Alors, on les découpe et on les enterre. Dans quelques millions d'années, elles pourraient ressembler aux débris d'un vaisseau spatial. Et puis, il y a le béton. On a produit plus que 500 milliards de tonnes, assez pour couvrir chaque mètre carré de la planète. Le ciment va se décomposer, mais le sable à l'intérieur, lui, va rester pendant des milliards d'années. Alors, notre histoire ne sera peut-être pas racontée par nos statues ou nos gratte-ciels, mais par nos déchets.
Oui, d'où l'importance de réfléchir à tout cela et notamment à la nécessité de penser à la redirection écologique. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion, c'est le philosophe Alexandre Monin qui l'appelle comme cela. C'est réfléchir à ce à quoi nous allons devoir renoncer, quelles infrastructures il va falloir démanteler, dans quel secteur de l'économie il faut désinvestir. Ça aussi, c'est un terme qui va rentrer petit à petit dans notre vocabulaire pour que cela se passe de la manière la moins conflictuelle possible et puis peut-être en laissant le moins de déchets possible. Dans un instant, ce sera la chronique média de Anne-Sophie Novel. Mais d'abord, voici El Gato Negro Mundo Cae dans ses pas du vent. C'est Mundo Cao de El Gato Negro, un titre que vous pouvez retrouver comme beaucoup d'autres dans la playlist de RFI disponible sur toutes les plateformes. Et voici l'heure de la chronique média de Anne-Sophie Novel.
RFI. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Qui
des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Bonjour Anne-Sophie Novel.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes journaliste, vous travaillez depuis plus de 10 ans sur les liens entre médias et écologie et chaque mois vous décortiquez pour nous la manière dont la presse internationale parle des enjeux environnementaux. Et ce mois-ci, sur quel aspect avez-vous envie d'attirer notre attention ?
Alors, dans cette troisième critique dédiée au traitement éditorial de l'urgence écologique, j'aimerais vous parler de catastrophe climatique.
Alors, c'est le sujet d'un débat que vous avez d'ailleurs récemment animé aux Assises françaises du journalisme.
Oui, c'est vrai. J'étais en très bonne compagnie avec des journalistes de l'Agence France Presse ou de BFM TV, mais aussi avec des consoeurs en charge d'analyser le traitement médiatique de ces sujets. Et si nous avions ce débat, c'est parce que ça ne coule pas toujours de source dans les médias.
Alors, expliquez-nous pourquoi.
Déjà, il y a un premier souci qui a longtemps été entretenu, c'est la confusion entre météo et climat. Ça a été entretenu par des discours sceptiques, certes, dont on a parlé la dernière fois, mais aussi par un manque de pédagogie. Pendant longtemps, nous n'avons pas fait l'effort d'expliquer au quotidien les effets du grand film climatique sur les variations de temps quotidien, alors qu'il est important de faire les liens entre l'état de l'atmosphère à un moment donné et dans un lieu précis, avec la moyenne des conditions météorologiques sur une période prolongée, généralement 30 ans ou plus. Et en fait, les bouleversements climatiques se traduisent différemment d'un endroit du globe à l'autre. Et la variation quotidienne ne dicte en rien l'évolution au long cours. Donc, on peut subir des hivers froids ou des étés pluvieux et vivre un réchauffement climatique.
Mais il y a quand même des progrès qui ont été faits, non, dans la manière d'aborder ces sujets ?
Oui, la compréhension s'est largement améliorée et certains bulletins météo ont même intégré de quoi suivre l'évolution climatique. Alors, au Guardian, par exemple, c'est le cas depuis 2019. La météo mentionne le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le journal est le premier à mettre en avant ce chiffre. Et pour eux, il s'agissait de permettre de prendre la mesure de la rapidité du changement climatique et parce que c'est une façon de montrer quotidiennement ce que l'activité humaine fait à notre climat. Mais comme l'a dit mon idole, la Catherine Lénard, qui est la rédactrice en chef du Guardian, à l'époque, il faut rappeler aux gens que la crise climatique n'est plus un problème d'avenir. Nous devons nous y attaquer maintenant et chaque jour compte. En France, c'est en 2023 qu'a été lancé sur France TV le bulletin Météo Climat. C'est une très belle initiative qui se sert du moment météo, qui est très suivi après le journal télévisé, pour donner la parole au public, pour répondre à ces questions avec des scientifiques donc sur les phénomènes climatiques ou même sur la biodiversité parfois. Et surtout, ça affiche les bandes de réchauffement. On a en dessous de ces bandes de réchauffement, donc, qui ont été mises au point par Ed Hawkins, un compteur qui rappelle là aussi que chaque millième de degré compte. Et enfin, je peux aussi citer, donc sur BFM, on a des journalistes spécialisés qui proposent maintenant des formats audio météo-climat sur le site de la chaîne.
Mais le bulletin météo, ça reste quand même de la météo. Alors que se passe-t-il quand un événement extrême se produit ?
Alors en effet, Anne-Cécile, notre traitement éditorial doit aussi s'affranchir de la simple couverture météo. Notre époque va être marquée par l'arrivée d'intempéries plus intenses, faites de coups de froid, de canicules, de vagues de chaleur, d'ouragans, de cyclones. Et en fait, il existe des sites sur lesquels on peut voir comment la zone géographique où l'on habite risque d'être impactée. Et il est possible d'imaginer des formats éditoriaux qui donnent à voir ces risques. Si vous allez sur le web, consulter Climadiag ou showyourstripes.info, vous pouvez anticiper les effets du changement climatique localement.
J'avoue que j'y suis allée en lisant votre chronique avant l'émission. Et c'est vrai que c'est assez fantastique de voir, enfin effrayant aussi. On peut voir vraiment pays par pays, l'évolution des températures. J'ai fait l'exercice, par exemple, pour la Côte d'Ivoire. C'était assez édifiant. Alors, oui, je vous laisse continuer, pardon.
Oui, pardon, c'est moi. Alors après, si un épisode météo intense est annoncé, le rôle des médias, là, c'est de donner l'alerte et de proposer des contenus en prévention de ce qui est annoncé. Ça fait partie du rôle qui est le nôtre. Bien sûr, ça pose aussi la question de la manière dont les urgences sont signalées par les services météo. Et je pense notamment à des surprises météorologiques qui ont eu lieu ces dernières années, notamment en mer Méditerranée. En Corse, on se souvient, à la mi-août 2022, il y a eu un front orageux d'une puissance rarement observé qui a touché la façade occidentale de l'île. Mais l'été dernier, en 2024, il y a aussi eu des trombes marines d'une violence inouïe qui ont surpris des bateaux. Et donc ça oblige d'un côté les services météo à revoir leur système d'alerte. Et dans les rédactions, on doit faire de la pédagogie sur ces événements. Et puis, il est aussi nécessaire dans les médias, quand un tel événement l'événement est annoncé, de s'équiper pour aller sur le terrain sans mettre en danger ses équipes pour préparer aussi sa couverture éditoriale. À l'AFP, par exemple, le rédacteur en chef du service Planète, Yvan Couronne, nous racontait lors de la table ronde qu'un plan éditorial est désormais mis en place dans tous les services quand les catastrophes climatiques sont annoncées. Et donc, ça dépasse le simple service climat ou planète du média.
Oui, alors quand un événement extrême est annoncé, on s'organise à l'échelle de la rédaction. Hein, c'est ce que l'on fait d'ailleurs à RFI. Mais il faut aussi faire en sorte que toutes ces informations parlent au public. Il y a des formats qui sont plus adaptés, Anne-Sophie, que d'autres.
Oui, alors vous avez raison Anne-Cécile, on peut observer parfois des effets de sidération et de lassitude. Voilà, c'est ce que disait François Pitrel de BFM, sur sa chaîne par exemple, on voit bien que l'audience se lasse et que la couverture médiatique de fait va baisser. Il se plaignait aussi parfois de ne pas arriver à motiver des experts ou des expertes pour venir sur le plateau. Donc tout ça pose la question des formats que nous adoptons pour suivre un sujet. Doit-on par exemple changer d'angle pour parler non plus de catastrophe climatique mais d'urgence écologique. Certains invitent aussi à ne plus parler de catastrophes naturelles, à dire par exemple les ouragans et les cyclones, on devrait les rebaptiser avec le nom d'entreprise du secteur énergétique fossile.
Allez hop.
D'autres, voilà, c'est dit. D'autres suggèrent aussi de faire le portrait des victimes des catastrophes climatiques ou encore d'insister sur un journalisme qui mettrait davantage en avant les solutions pour s'adapter et surtout le rôle des politiques publiques et économiques pour atténuer nos émissions et donc pour traiter le problème à la source. Donc en fait, ce qu'il faut en retenir, c'est que l'innovation éditoriale peut se traduire par la création d'outils qui aussi peuvent s'adresser aux abonnés. Hein. Je pense que récemment, le quotidien San Francisco Chronicle, par exemple, a lancé un canal d'information par SMS pour être informé de la météo et dialoguer avec des météorologues sur des chaînes dédiées. Mais on peut aussi organiser des collectes, créer une chaîne de solidarité. C'est ce qu'a fait Nice ce matin, après les intempéries dans la vallée de la Roya, quand il y a eu la tempête Alex. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que sur ce territoire, l'intempérie a donné naissance à un média local, Radio Tout-Terrain, un média convivial et participatif. Donc c'est ce que j'adore moi, un média médiateur, et c'est vraiment ce dont on a besoin.
Merci beaucoup Anne-Sophie Novel. Je signale aux auditeurs qu'ils peuvent s'abonner à votre newsletter Novelita qui traite du vivant dans tous ses émoirs.
RFI. Le club de C'est pas du vent sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Et justement, le post-catastrophe, on en parle tout de suite avec vous, Lucille Gimbert, dans le 101e département français des montagnes de déchets font toujours partie du paysage, plus de 3 mois après le passage du cyclone Chido le 14 décembre 2024 à Mayotte. Il y a des ordures que l'île peine à évacuer. Ces montagnes de poubelles posent aujourd'hui des risques sanitaires et environnementaux.
Oui, le premier problème, c'est que pendant plus de 2 semaines après le passage du cyclone, les poubelles des Mahorais n'ont pas pu être évacuées. Donc des couches, les restes alimentaires, les emballages. Le problème était dû au fait que les routes étaient bloquées, les infrastructures d'enfouissement, c'est le seul système quasiment de gestion des déchets sur l'île, était endommagé. Le casier du centre d'enfouissement, par exemple, avait été rempli d'eau. Le casier, c'est un immense trou qui fait l'équivalent de 5 terrains de football dans lequel sont enfouis les déchets. Donc, rempli d'eau, ça a engendré des risques pour les engins qui y travaillent, qui déplacent ces montagnes de déchets. Chido a aussi fait des dégâts sur les quais de transfert où les camions arrivent. Et puis, un deuxième casier, c'est-à-dire ce grand trou, une deuxième grande surface pour enfouir dans le sol, devait être livré fin décembre. Il était prêt à être utilisé. Il y avait une membrane pour protéger le sol du jus de déchets qui va polluer les nappes, sinon s'il n'y a pas ce textile. Eh bien, il a été complètement arraché par les vents. Et là, cette membrane a dû être réparée ensuite. Mais du retard a été évidemment accumulé dans la gestion et la collecte des ordures habituelles. Elles se sont accumulées. Depuis, les agents du CIDEVAM, qui est en charge de la collecte des déchets à Mayotte, font le maximum pour rattraper ce retard. Mais il manque d'équipement. Écoutez, Chanour Kassam, c'est le directeur des services généraux du CIDEVAM que j'ai pu joindre au téléphone.
J'ai un parc de camions endommagé partiellement par le cyclone. Après, mes camions sur le le terrain, ont aujourd'hui une usure importante, notamment sur les pneus et sur quelques pièces mécaniques. Donc là, aujourd'hui, j'ai 30% de mon parc qui est sur le terrain et qui est mobilisé.
Et Lucille, la deuxième zone d'enfouissement dont vous parliez a finalement pu ouvrir mi-mars. Alors, quand Lille devrait-elle en avoir fini avec ce surplus de déchets ménagers ?
Alors, le CIDEVAM espère que cela sera traité d'ici fin avril, mais il reste un autre problème. Il reste 200 000 tonnes d'autres déchets, selon Shanour Kassam. Tôles, charpentes arrachées, électroménagers hors d'usage, des meubles, des chaises, des tables abîmées par la pluie, des arbres déracinés. Et comme les habitants de Mayotte continuent de réparer, par exemple leur toit, eh bien de nouveaux déchets sont apportés dans ces zones dites tampons en bordure des villes. Des collines de déchets, donc en bordure de ville, parfois mélangées à des poubelles ménagères, parce que le déchet attire le déchet. Cela attire ces poubelles ménagères mélangées à tous ces gros gravats, des mouches, mais aussi des rongeurs et des moustiques qui sont des vecteurs de maladies graves pour la population. Écoutez Florent Forestier de l'association environnementale Yes We Can Net.
Enfin, ça pue la mort, quoi. C'est hallucinant. Ça pose un problème de salubrité directe pour la population qui vit autour. On est en pleine saison des pluies, donc il pleut dessus et tout ce qui sort de ces déchets part directement dans les nappes et se retrouve directement dans le lagon.
Tous ces déchets ont aussi entraîné une explosion des coûts pour les organismes chargés de la collecte et de la gestion des ordures. Le CIDEVAM estime qu'il a dépensé entre 2 et 3 millions d'euros déjà en dehors de son budget. Il est en discussion avec l'État pour une prise en charge totale ou partielle de ces surcoûts. Et puis pour ce calendrier, l'évacuation de ces montagnes de déchets devrait s'étaler sur toute l'année 2025.
Et cette crise ravive évidemment aussi la nécessité de repenser la gestion des déchets à Mayotte.
Oui, parce que le système de collecte et de gestion des déchets à Mayotte était déjà sous-dimensionné avant le passage du cyclone. Pour la sénatrice de droite Martha de Sidrac, qui a publié une tribune sur le sujet, le modèle actuel fondé quasi exclusivement sur l'enfouissement est totalement dépassé, non seulement dépassé, mais incompatible avec les objectifs environnementaux de la France. Il semble donc incontournable de développer des infrastructures efficaces de tri, de valorisation et de recyclage. Et oui, pour le moment, il n'y a pas de recyclage sur l'île. Pour le moment, la population trie peu. Il faut dire aussi que pour beaucoup, l'urgence, c'est avant tout de se nourrir et d'avoir accès à l'eau. Mais voilà, on a en tête le fait que ces déchets qui peuvent être recyclés à Mayotte doivent, pour l'être, d'abord être exportés.
Merci Lucille Gimbert pour toutes ces précisions. Prenons un petit peu de hauteur. Simon Rosé, vous vouliez réagir à ce qu'a dit Lucille.
Oui, ça d'abord. Faisait écho aussi un peu ce que disait Anne-Sophie Novelle sur le côté anthropique des catastrophes. Un aléa comme ce qui s'est passé à Mayotte est un aléa naturel, un cyclone, mais la catastrophe qui est derrière, elle est sociale, elle est humaine. Pour exemple, le cyclone Irma qui avait frappé Saint-Barthélemy en 2016, si je ne dis pas de bêtises, soufflait 100 km/h plus fort que Chido. À Saint-Barthélemy, il y avait eu 2-3 morts, ça se comptait sur les doigts d'une main, à comparer avec Chido où ça soufflait beaucoup moins fort. Donc l'aléa est naturel, la catastrophe qu'on va évoquer nous en tant que journalistes derrière au micro, il y a cette dimension humaine au moment où ça frappe, en termes d'adaptation des structures, de la préparation des populations, et après coup un territoire comme Mayotte va mettre beaucoup plus de temps à s'en remettre qu'un territoire plus riche comme Saint-Barthélemy à l'époque.
Voilà, d'où l'importance de l'adaptation. Alors prenons un petit peu de hauteur, cumulonimbus, stratocumulus, vous avez un
Cirrus.
Peu la Cirrus aussi, oui, vous avez un petit peu la tête dans les nuages, Simon Rosé, nous l'aurons tous potentiellement samedi prochain.
Il faut bien, parce que c'est dommage de devoir attendre la journée internationale des nuages qui a lieu ce samedi pour en parler, parce que c'est, je crois qu'avec regarder l'océan, les étoiles ou le feu, c'est un des seuls spectacles qu'on peut, on peut passer des heures devant sans s'ennuyer.
Et c'est
en tout
gratuit.
Cas, personnellement, c'est le cas pour moi. Les nuages qui sont très intéressants également, il y a plein de questions climatiques et plein de petits trucs intéressants qu'on commence à fouiller qu'on ne connaissait pas. Savez-vous, par exemple, Anne-Cécile, que les nuages ont été utilisés comme armes de guerre ?
Non.
C'était pendant la guerre du Vietnam, l'opération Popeye en 1966 de l'armée américaine qui a balancé des tonnes de iodure d'argent, avec idée derrière d'intensifier la mousson pour ralentir les troupes de Ho Chi Minh. Un fait de guerre, la première fois que les nuages étaient utilisés ainsi, ce qui a entraîné 10 ans plus tard la création d'une convention, la convention NMOD, qui interdit l'usage des nuages comme arme de guerre. Car les nuages, on les utilise, on les ensemence, on les crève pour faire pleuvoir, c'est un enjeu. Il y a une cinquantaine de pays aujourd'hui dans le monde qui font pleuvoir artificiellement.
Et cela peut créer des conflits aussi, d'ailleurs.
Voilà, hein. Au détriment des voisins qui se trouvent en aval du parcours du nuage, qui attendaient la pluie, qui ne vient pas parce qu'elle est tombée avant, parce qu'on l'a fait tomber sciemment.
Alors vous dites donc, ça très vite parce que vous avez la tête dedans tout le temps, mais comment est-ce qu'on fait pleuvoir un nuage?
On peut balancer du gros sel vulgairement, mais c'est tout simplement les nuages, ce sont des gouttelettes d'eau qui sont rassemblées autour d'aérosols, de microparticules. Au-dessus de l'océan, ça peut être du sel, ça peut être de la pollution, ça peut être du soufre, ça peut être tout un tas de choses. Donc on peut envoyer des produits chimiques comme l'avaient fait les Américains dans les années 60 pour susciter des réactions qui vont faire pleuvoir derrière, ou on peut tout simplement envoyer des particules plus grosses qui vont casser ces micro-cristaux de glace qui peuvent se former et ensuite faire pleuvoir. Donc voilà, on peut s'amuser, entre guillemets, gros guillemets, avec les nuages. Les nuages qui ont également un rôle dans la machine climatique qui est assez méconnu. J'ai découvert, par exemple, qu'ils couvraient les deux tiers de la superficie du globe, ce qui est quand même assez colossal, et que s'ils disparaissaient, la température mondiale augmenterait de 5 degrés, à peu près.
Donc c'est une grosse fourchette. Ils filtrent un peu les rayons du soleil.
Alors, ils ont un double effet, en fait. Ils ont un effet parasol, c'est-à-dire que les rayons du soleil qui viennent frapper la Terre rebondissent sur les nuages, donc ça évite de chauffer la Terre, mais ils peuvent également avoir un effet réchauffement. Pour le coup, un effet de serre, parce que l'effet de serre, c'est la Terre qui capte la chaleur du Soleil et qui la restitue après, donc elle repart vers l'espace et les nuages peuvent la bloquer. Donc ils ont tout un rôle dans la machine climatique comme ça, qui est bien étudié, mais il y a beaucoup de variables, il y a beaucoup d'incertitudes, donc c'est pas très très précis, mais on a cet ordre de grandeur que j'évoquais, plus 5 degrés si les nuages venaient à disparaître. Toute la question, c'est dans un monde qui se réchauffe, quelle va être la dynamique des nuages? Est-ce qu'il va y en avoir plus? Est-ce qu'il va y en avoir moins? Où est-ce qu'ils vont être? Est-ce que l'effet parasol va se renforcer ou pas? On estime que pour 1 degré de réchauffement, il y a 7% d'humidité en plus dans l'atmosphère. Cela dit, c'est pas pour ça qu'il y aura plus, que l'atmosphère est plus humide, qu'il y aura plus de nuages, puisque comme je disais, ils ont besoin de particules pour se fixer, ils ont besoin d'aérosols. Donc il y a toutes ces questions qui se posent à l'occasion de cette journée internationale des nuages. C'est un thème qu'il faut mettre en avant, voilà. Ça fait du bien.
Écoutez, je m'engage à faire une émission sur
ça. Mais faites parce que
à faire une émission sur les nuages, voilà, prochainement, parce que je pense que ça le mérite. Merci Juliette Keff d'être venue dans C'est pas du vent.
Merci beaucoup de m'avoir accueillie.
Les auditeurs peuvent vous lire sur le site de Vert. Merci à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation et à tous les autres journalistes présents dans cette émission. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons demain. Même planète, même heure. Et dans une minute, c'est le journal sur RFI.